du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 29e dimanche. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent
« Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. »
Il leur dit
« Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»
Ils lui disent
« Accorde-nous de siéger à ta droite et à ta gauche dans ta gloire. »
Jésus leur dit
« Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire ? Être baptisé du baptême dont moi je vais être baptisé ?»
Ils lui disent
« Nous le pouvons. »
Mais Jésus leur dit
« La coupe que moi je vais boire, vous boirez, et le baptême dont moi je vais être baptisé, vous serez baptisé. Mais siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de le donner, c'est à eux, c'est à ceux pour qui cela a été préparé. »
Les 10 qui ont entendu commencent à s'indigner contre Jean et Jacques. Jésus les appelle et leur dit
« Vous le savez, les soi-disant chefs des nations dominent en seigneur sur elles, et leurs grands exercent de haut le pouvoir sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier sera esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Bonjour Georges.
Bonjour André.
Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà sans doute une phrase qui nous est bien connue, trop peut-être au point qu'elle ne provoque plus en nous d'étonnement, d'interrogation. Et pourtant, il y a en ces quelques mots l'énoncé d'un mystère que nous n'aurons jamais fini de sonder. Un mystère qui concerne tout autant notre vision de Dieu que le sens de notre vie.
Eh bien, regardons la place de ce texte. Nous sommes dans le récit de Marc sur la route de Jérusalem, en chemin vers la Passion et vers son dénouement crucial. Matthieu, Luc, Marc jalonnent cette montée de 3 annonces de la mort de Jésus. On a sans doute ici le schéma de la catéchèse des premières communautés chrétiennes, catéchèse qui s'est transmise oralement après Pâques et dans les années qui ont suivi. Et cette catéchèse dit à la fois comment Jésus a vécu sa mort et le sens qu'il lui a donné, mais aussi comment les disciples ont réagi devant cette annonce de la mort de leur maître. À chaque annonce correspond la description de cette réaction des disciples à laquelle Jésus répond par un enseignement.
La réaction des disciples.
Alors, ce sont Jacques et Jean qui réagissent à cette 3e annonce. Le récit nous a déjà décrit le contraste entre l'attitude de Jésus et celle des disciples. Ils sont en chemin, ils montent à Jérusalem, Jésus marche devant eux. Et eux, ils sont effrayés, ceux qui suivent ont peur. Jésus marche donc en tête, ce qui veut probablement signifier sa décision résolue de marcher vers son destin, vers cette mort qu'il choisit. Tandis que les disciples, ceux qui normalement doivent le suivre, eh bien on dirait qu'ils semblent marcher de reculons. Le récit d'ailleurs nous a déjà prévenu, ils ne comprennent pas cette annonce et ils craignent de l'interroger. Leur réaction peut nous sembler à première vue surprenante et même incompréhensible, puisqu'on nous dit qu'ils vont se quereller pour savoir qui est le plus grand. D'ailleurs, voici que 2 d'entre eux viennent briguer les places d'honneur. « Dans ta gloire, accorde-nous de siéger à ta droite, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. »
Comment comprendre cette demande ?
Mais l'épisode de l'appel du jeune homme riche a précédé cette 3e annonce de la Passion. Et cet épisode se terminait par la question de Pierre : « Quand sera-t-il pour nous qui avons tout quitté pour te suivre ?» En Marc, Jésus répond en disant qu'ils recevront au centuple dès maintenant maison, frères, sœurs, mères, enfants, champs avec des persécutions ainsi que la vie éternelle dans le monde à venir. En Matthieu, le passage parallèle, la réponse de Jésus à la question de Pierre pourrait sans doute expliquer davantage la demande de Jacques et de Jean.
Amen, je vous le déclare, lors de la régénération de l'univers, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
Voilà des images qui nous sont un peu difficiles à interpréter. Il faut d'abord nous rappeler qu'il s'agit du règne de Dieu et de sa réalisation sur terre. Le livre biblique de Daniel parlait du Fils de l'homme comme de celui qui, ayant reçu l'investiture royale, est appelé à gouverner le peuple des saints du Très-Haut.
Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient.
Juger les 12 tribus d'Israël, ce serait donc, à la lumière de ce texte pour les apôtres, partager le gouvernement du règne de Dieu avec Jésus, le Fils de l'homme, roi Messie. Mais cette régénération de l'univers, quand aura-t-elle lieu? Dans le temps de l'histoire ou à la fin des temps? Doit-on comprendre cette régénération comme la restauration du royaume d'Israël, lorsqu'il sera enfin débarrassé de ses occupants romains et qu'il sera gouverné par un roi Messie, un roi véritablement juste? Déjà le prophète Isaïe annonçait que l'ère du Messie serait comme la naissance d'une nouvelle terre.
Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Oui, j'exulterai au sujet de Jérusalem et je serai dans l'enthousiasme au sujet de mon peuple. Désormais, on n'y entendra plus revenir, retentir, ni pleurs, ni cris. Il n'y aura plus là de nourrissons emportés en quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ces jours. Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre habite. Ils ne planteront plus pour qu'un autre mange. Car ils seront la descendance des bénis du Seigneur, et leurs rejetons resteront avec eux. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur.
Cette transformation de l'univers signifie la venue d'un monde où la paix régnera entre tous. Mais on peut aussi situer ce monde de paix à la fin du temps, à la fin des temps, ainsi que le décrit l'Apocalypse.
Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Voici la demeure de Dieu avec les humains. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Et celui qui siège sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. »
Est-ce qu'il faut d'ailleurs se décider entre le maintenant ou à la fin des temps? L'intervention de Dieu dans le destin de l'humanité ne se réalise-t-elle pas à travers une longue suite de renaissances, de renouveaux qui sont vécus quotidiennement par ceux qui accueillent l'amour de Dieu? Des renouvellements et des renaissances qui certes peuvent transformer un peu la société, mais qui sont d'une certaine manière toujours à reprendre à chaque nouvelle génération. En effet, chaque être humain se retrouve neuf devant les choix de sa propre liberté. Les fidèles du Dieu de Jésus sont donc appelés à renaître continuellement par l'Esprit du Père et à travailler à renouveler sans cesse l'humanité.
Mais que viennent demander les deux fils de Zébédée?
Il semble bien que pour eux, l'avènement du règne se fasse bientôt puisqu'ils demandent d'avoir les places d'honneur. S'ils sont de la parenté de Jésus, comme certaines traditions le disent, il est normal qu'ils demandent de partager le pouvoir avec Jésus lorsque Jésus sera devenu le roi Messie. C'est leur droit de famille, on pourrait dire. Ils sont, de plus, parmi les quatre avec Pierre et André, qui ont été appelés les premiers. Ils font aussi partie des 12.
Il établit les 12. Pierre, c'est le surnom qu'il a donné à Simon. Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Et il leur donna le surnom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre.
Ils accompagnent aussi Jésus lorsque Jésus va ramener à la vie la fille de Jaïr.
Et il ne laissa là personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques.
Ils ont enfin bénéficié avec Pierre de la vision glorieuse de Jésus lors de la transfiguration et ils seront aussi ceux qui partageront la prière de l'agonie au mont des Oliviers. Eh bien, Jésus ne semble pas contester leurs droits. Par contre, il va leur faire prendre conscience du chemin qu'ils ont à parcourir pour partager sa gloire. Eh bien, en face de cette réaction des disciples, et donc tout particulièrement de celle de Jacques et de Jean, voici l'enseignement de Jésus.
Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire? Être baptisé du baptême dont moi je vais être baptisé?
La gloire de Dieu et la gloire humaine ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ce que les humains appellent gloire est plutôt synonyme de grandeur, de prestige, de puissance. Alors que ce que l'Évangile appelle la gloire de Dieu, c'est plutôt le rayonnement de son amour. C'est, il me semble, en ce sens qu'en parle Jésus dans le récit de Jean.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un.
Oui, cette gloire, c'est l'amour qui aboutit à l'unité. Dans le récit de Luc, la gloire va être concrètement associée à la souffrance, comme le dit le ressuscité aux compagnons d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Messie souffrît ainsi pour entrer dans sa gloire? Ici, Jésus demande aux deux disciples s'ils sont capables de boire à sa coupe et d'être baptisés du même baptême que lui.
Que signifient ces images du baptême et de la coupe?
Eh bien, la coupe, c'est l'image de la destinée personnelle. On trouve cette image dans le psaume 15.
« Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, de toi dépend mon destin. »
Elle peut être à la fois coupe d'action de grâce pour remercier Dieu du bonheur, et on trouve cela dans le psaume 116.
« Comment rendrai-je au Seigneur Dieu tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe de la délivrance, j'invoquerai le nom du Seigneur Dieu. »
Mais ce peut être aussi la coupe de la souffrance et de la mort. Jésus d'ailleurs le dira au Jardin des Oliviers.
« Abba Père, à toi tout est possible, écarte-moi cette coupe. Pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Notre langue française ne parle-t-elle pas d'ailleurs de boire la coupe jusqu'à la lie, et cela pour décrire le drame de celui qui touche le bas-fond de la souffrance. Au IIe siècle, l'évêque Polycarpe, qui va mourir sur le bûcher, priera ainsi.
« Seigneur, Père de ton enfant bien-aimé, Jésus, je te bénis de m'avoir jugé digne d'être compté au nombre de tes martyrs et de prendre part avec eux à la coupe de ton Messie pour la résurrection. »
Voilà pour l'image de la coupe. Eh bien, l'image du baptême doit aussi être rapprochée de la mort. En son sens premier, le baptême, c'est d'abord une plongée dans les eaux. Mais lorsque ces eaux sont celles des fleuves tumultueux ou bien des abîmes, des mers desséchées, ces eaux représentent les flots de la mort. Dans le récit de Luc, Jésus emploie cette image pour dire sa mort prochaine.
« C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me paie jusqu'à ce qu'il soit accompli. »
Dans la lettre aux Romains, Paul va comparer le baptême des chrétiens à une plongée dans la mort du Christ.
« Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. »
Eh bien, comment comprendre ce lien entre gloire et souffrance? Ce n'est pas la souffrance qui fait entrer dans la gloire, en vérité. Mais c'est plutôt le pourquoi de cette souffrance et surtout la manière dont on la vit. Si Jésus connaîtra la souffrance de la passion et de la croix, c'est parce qu'il aura été jusqu'au bout de l'amour. Envers ceux qui vont le rejeter et le crucifier, Jésus, en effet, n'aura d'autre réponse que de livrer sa vie. Écoutons Maurice Zendel.
Jésus, à genoux, lave les pieds de Judas, qui l'a vendu, de Pierre qui va le renier, de Jacques et de Jean qui vont s'endormir dans le jardin de l'agonie, de tous les autres qui vont s'enfuir quand il aura été livré. et qu'il apparaîtra désormais comme le condamné voué à l'infamie.
Oui, c'est au lavement des pieds que commence l'ultime passion d'amour de Jésus. Et c'est là que se trouve l'ultime enseignement sur le sens qu'il donne à sa mort. C'est là, en effet, que Jésus répond vraiment à Pierre qui le rabrouait lorsqu'il annonçait sa décision de le livrer, de se livrer. C'est là qu'il répond à Jacques et à Jean, qui ne savaient pas ce qu'il demandait en voulant siéger à sa droite et à sa gauche. Au rejet et à la trahison, comme à la haine, Jésus ne répondra que par le don de lui-même, le don de son amour par-delà le refus. Et c'est ainsi qu'il sauvera son âme de la haine et de la violence. C'est ainsi qu'il sauvegardera l'amour de son cœur et qu'il deviendra source de pardon. C'est ainsi qu'il entrera pleinement dans la gloire de l'amour. Alors, pour entrer eux aussi dans cette gloire de l'amour, Jacques et Jean n'auront pas d'autre chemin que celui que Jésus a emprunté, et c'est le chemin du baptême de la croix.
Donner sa vie en rançon pour la multitude.
Eh bien, comment comprendre cette phrase? L'apôtre Paul, semble-t-il, s'inspire de ce passage de Marc dans plusieurs de ses lettres. Écoutons un passage de la lettre à Timothée et un autre de la lettre à Tite.
Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les humains. Un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout péché, de purifier un peuple qui lui appartienne.
La liturgie juive connaissait un sacrifice pour le délit et un sacrifice pour le péché. Le pécheur repentant offrait un animal à Dieu pour exprimer la réalité de sa conversion. L'image de la rançon peut aussi évoquer la coutume juive de celui qu'on appelait le vengeur de sang, le goël. En effet, lorsqu'un homme avait été fait prisonnier ou avait été tué, son proche parent s'engageait à faire justice, soit en rachetant le prisonnier, soit en châtiant le meurtrier. Mais ici, on ne peut pas comprendre cette image de la rançon comme s'il fallait payer à Dieu le prix de notre libération. Jésus parle trop de la miséricorde et du pardon gratuit de Dieu pour avoir cette pensée. S'il y a un prix à payer, ce serait plutôt celui de livrer sa vie à ceux qui le rejettent et le condamnent. Livrer sa vie pour que le feu de son amour puisse convaincre le cœur de ceux qui vont le tuer par haine, par lâcheté ou par jalousie. Ce don de sa vie est gratuité pure, totale générosité. Jésus marche à la mort de la croix afin que son amour soit un pardon d'amour, aussi bien pour ses plus proches disciples que pour les chefs de son peuple. Et lorsqu'il sera ressuscité, lorsqu'il sera vivant pour tous les jours de l'histoire, Jésus sera encore source d'amour et de pardon pour ceux qui mettront en lui leur foi, leur confiance totale et qui viendront ouvrir leur cœur à la force infinie de son amour. Il me semble que c'est comme cela qu'il faut comprendre être rançon pour la multitude. François Varillon a d'ailleurs d'admirables pages sur ce don que Jésus fait de sa vie sur la croix. Écoutons-le.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En donnant son Fils, le Père donne en quelque sorte plus que lui-même, puisque Père, il n'est que par et pour le Fils. C'est Jésus qui se livre, mais c'est aussi le Père qui le livre. Il va de soi que j'évite, en dépit des clichés maladroits, d'imaginer un Dieu offensé qui exige, pour que justice soit faite, la compensation d'un sang répandu. Exigence n'a pas de sens si, en livrant le Fils, le Père se crucifie lui-même. La croix de Jésus est au cœur d'un amour qui a éternellement forme de sacrifice.
Pendant l'ultime repas, Jésus fera d'ailleurs circuler sa propre coupe pour la donner à boire à ses disciples, et ce sera pour lui un geste de communion au don qu'il fait de sa vie.
« Ceci est mon sang versé pour la multitude. Prenez et buvez-en tous. C'est le sang de l'Alliance en vue du pardon des fautes. »
En vue du pardon des fautes. Dans le repas de la Pâque juive tel qu'il était célébré à l'époque de Jésus, il y avait 4 coupes de vin. Et la distribution de la 4e coupe était accompagnée d'une prière qui nous apparaît peut-être un peu dure. « Ô Dieu, répands ta colère sur les peuples qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui ne prononcent pas ton nom. » Eh bien, Jésus, au contraire, en prenant cette coupe, dit explicitement qu'elle est pour la multitude des hommes qui seront mis au bénéfice de la grâce. Ce geste de la coupe ne fait pas que marquer le don que Jésus fait de sa vie, il indique aussi l'implication personnelle qu'il attend de ceux qui boivent à sa propre coupe.
« La coupe que moi je vais boire, vous boirez, et le baptême dont moi je vais être baptisé, vous serez baptisés. »
Voilà probablement le sens que nous devons donner à la formule de la liturgie eucharistique. « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oui, celui qui boit à la coupe du don de la vie de Jésus doit s'engager à livrer sa propre vie, c'est-à-dire à vivre le pardon, toujours et envers tous, jusqu'à 70 fois cette fois.
Vous le savez, les soi-disant chefs des nations dominent en seigneur sur elles, et leurs grands exercent de haut le pouvoir sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous.
Il est tout à fait remarquable que le récit de la Passion de Jésus soit scandé à plusieurs reprises par ses remarques sur le service et sur la non-domination. Ainsi, après la 2e annonce de la Passion, Jésus donne cet enseignement « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous ». Dans le récit de Luc, c'est autour du dernier repas que vient encore le même enseignement.
Lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Dans le récit de Jean, Jésus va même mimer ce service par le geste du lavement des pieds. Les premiers chrétiens qui ont composé ces récits de catéchèse que sont les évangiles n'ont-ils pas voulu marquer le lien essentiel qu'il y a entre la mort de Jésus et le pouvoir dominateur? Ces chefs des nations qui dominent et qui font sentir leur pouvoir sont d'ailleurs tout autant les chefs de la Rome païenne que les chefs religieux juifs qui vont mettre Jésus à mort. L'image de Dieu que ce pouvoir religieux véhicule et son désir de puissance ne peuvent s'accorder à la liberté personnelle responsable que Jésus exige dans la relation avec Dieu. C'est parce qu'ils ne peuvent imaginer un Dieu humble et qui s'agenouille devant celui qui le renie que les chefs religieux feront taire le prophète de Galilée. Malgré les enseignements des prophètes, les chefs d'alors avaient de Dieu l'image du Tout-Puissant. Oh, nous donnons bien souvent à Dieu le visage qui est celui de nos chefs terrestres. L'image de la grandeur que nous avons rejaillit sur notre image de Dieu, comme le dit bien Maurice Zendel.
Le plus grand, c'est celui qui écrase, qui a des sujets, qui commande et exige d'être obéi. C'est celui devant qui le peuple n'est que poussière. Et c'est pourquoi les pharaons sont divinisés. Mais si le pharaon est Dieu, Dieu est aussi un pharaon. Dieu apparaîtra comme le maître absolu devant lequel nous ne sommes que néant.
Cette image de la grandeur divine toute puissante n'habite-t-elle pas le plus souvent nos mémoires? Est-ce qu'elle n'empoisonne pas nos relations, aussi bien celles que nous avons entre humains que celles que nous avons avec Dieu?
Cette image corrompt notre esprit, corrompt aussi notre religion, parce que justement, l'Évangile nous a apporté une autre échelle des valeurs. À cette échelle des valeurs fondées sur la domination, sur l'écrasement de la fragilité humaine par la puissance divine, l'Évangile oppose une nouvelle échelle des valeurs incroyable, merveilleuse, et dont nous n'avons pas encore commencé de comprendre la portée.
La plus belle image de Dieu que Jésus nous ait donnée, c'est sans doute ce geste du lavement des pieds. Et ce geste d'ailleurs n'en est pas un d'humiliation, mais surtout un geste d'amour. L'humilité de Dieu n'a de sens que parce qu'elle est la porte de la communion en son amour. Celui qui aime ne peut qu'être humble et vulnérable, et Dieu n'est qu'amour. C'est donc dans ce geste du lavement des pieds que le visage de Dieu se révèle enfin. Le vrai, l'unique visage de Dieu. Un visage inconnu, insoupçonné, imprévisible, merveilleux. Un visage que le monde d'aujourd'hui attend et ne connaît pas encore. Oui, voilà peut-être la mission actuelle la plus urgente des disciples du Christ. Témoigner, tant dans leurs relations fraternelles au sein des communautés chrétiennes, que dans les relations quotidiennes au sein de la famille, du réseau d'amis, du groupe de travail, témoigner que l'amour vrai a visage d'humilité et de gratuité.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous pouvez également vous abonner, soit au feuillet, soit aux cassettes. Pour 3 mois, 6 mois, 1 an, téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.